FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Les 16 et 17 octobre 2024, c'est le Forum des métiers organisé par Grenoble Alpes Métropole à Alpes Expo Grenoble. News FM en mode hors les murs, ça continue en direct depuis l'Alpes Expo dans le cadre de la première journée de ce Forum des métiers, édition 2024 organisée par Grenoble Alpes Métropole. Donc aujourd'hui jusqu'à 21h, vous pouvez venir, l'entrée est libre. Et vous pouvez venir vous informer sur de très très nombreuses carrières. Beaucoup de filières professionnelles sont représentées. Également la formation, l'encadrement, l'économie sociale et solidaire. Et que sais-je encore, il y a tellement de choses dont vous trouverez forcément des infos sur, pourquoi pas, des métiers que vous pourrez découvrir ou bien pour confirmer un projet professionnel, une reconversion professionnelle, pourquoi pas, l'intérim, recherche de stage, il y en a vraiment pour tout le monde, que vous soyez jeune ou moins jeune. Et puis on continue nos rencontres dans le cadre de ces deux journées. Nous allons parler maintenant un peu plus de ce qu'on appelle les métiers genré et métier d'avenir avec Corinne Lemarié. Bonjour Corinne.
Bonjour Christophe, merci.
Et bienvenue à nouveau sur l'antenne de News FM. Je dis à nouveau puisqu'on se rencontre régulièrement quand on parle de l'égalité homme-femme et de lutte contre les discriminations, puisque vous êtes conseillère métropolitaine déléguée à ces questions-là. Égalité entre femmes et hommes, entre garçons et filles, et donc les luttes contre les discriminations. Alors, ça peut être intéressant avant qu'on embraye sur les métiers, l'égalité des sexes au sein de l'entreprise, du monde du travail, que vous nous rappeliez un petit peu ce que vous faites exactement, Corinne, au sein de la métro. Quels sont un petit peu les grands axes de travail que vous avez ?
Oui, alors déjà, je voulais remercier News FM. C'est toujours un plaisir d'être sur votre antenne. Alors, la métropole est très connue pour la collecte des déchets, les voiries, beaucoup de choses très techniques. Et puis, il y a aussi des choses qui vont plus justement dans l'égalité et dans nos vies quotidiennes. On fait de la prévention aussi, de la prévention spécialisée. Et puis, on parle aussi d'égalité entre les femmes et les hommes. Et le président Ferrari avait souhaité qu'il y ait une délégation uniquement consacrée à ce sujet. Donc, c'était un message fort. Les autres années, les autres mandats, c'était souvent lié à autre chose, le sport, les RH. Et là, il a souhaité qu'il y ait une délégation complète, de la même manière qu'il y a un service qui est la Maison pour l'égalité, qui est maintenant un service complètement intégré à Grenoble-Alpes-Métropole, qui est en charge justement de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que ce service, cette Maison pour l'égalité, qui est bien connue sur le territoire, aide les écoles, les adultes, les groupes d'individus, lance un appel à projet Jeune Égalité pour les jeunes de 6 à 26 ans qui s'intéressent à ces sujets-là, et donc travaille sur tous les sujets en faveur de la promotion entre l'égalité et les femmes. On a un réseau également contre les violences faites aux femmes, sur ce sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui fonctionne avec l'État, le département et d'autres institutions. On travaille actuellement sur la prostitution des mineurs, où on vient justement de rendre un rapport sur un sujet que l'on croit très loin de nos préoccupations territoriales, mais on se rend compte que l'appauvrissement des étudiants ou de jeunes de manière générale ou d'enfants qui tomberaient dans des réseaux qui existent aussi sur nos territoires. Voilà, donc vous voyez, c'est un sujet extrêmement vaste, ce sujet de l'égalité entre les femmes et entre les femmes et les hommes.
Et c'est exactement ce que j'allais dire, que ce soit la lutte contre les discriminations ou le combat pour l'égalité de droit entre hommes et femmes, c'est un vaste combat. Un combat de tous les jours et qui progresse très lentement. Parfois, on n'a pas même l'impression qu'on avance d'un pas et qu'on recule de deux. Si on parle plus spécifiquement de l'égalité des droits, des droits des femmes dans le milieu du travail, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu quand même des avancées ?
Alors oui. Vous parlez d'égalité des droits. Moi, je pense que l'égalité des droits, elle n'est pas loin d'être atteinte en réalité. C'est dans les faits que les choses sont très différentes. C'est qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un salarié, une salariée, vous ne pouvez plus dire uniquement un homme ou une femme. Tout à l'heure, je me promenais dans les allées du salon et une dame me disait qu'elle avait encore vu une annonce, on cherchait des skimen. Alors peut-être que parce que c'est un nom anglais, on a laissé passer et l'anglicisme et le féminin exclusif, mais bien entendu que ce métier qui consiste à travailler sur les remontées mécaniques est ouvert aux hommes comme aux femmes, mais que dans les faits, c'est encore un métier très masculin, les métiers genrés, je pense qu'on va y venir plus directement tout à l'heure, parce que associé à une difficulté technique, etc. Ce qui pouvait être vrai autrefois, donc cette difficulté technique nécessitait une force physique dont les hommes sont souvent, mais pas toujours, mieux dotés, et qu'aujourd'hui la technique fait qu'elle remplace et elle peut compenser facilement le manque de force physique que l'on peut trouver parfois chez les femmes. Donc l'excuse de la difficulté physique n'en est plus une en réalité. C'est dans les mentalités qu'il faut que les choses changent. Et si justement on a besoin de ski men et de ski women, eh bien peut-être qu'en élargissant les annonces et en ouvrant ce métier, en allant chercher les femmes, et il y en a déjà beaucoup dans ce milieu, mais pas assez, on se rendrait compte qu'on arrive à pallier les difficultés de recrutement, les manques de personnel.
Alors depuis quelques décennies, beaucoup de métiers qui étaient très masculins se sont ouverts aux femmes, heureusement. Malgré tout, est-ce que, puisqu'on parle de métiers genrés, donc des métiers plus adaptés ou représentés davantage par les hommes que par les femmes, est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a certains où on se dit finalement, oui, on ne peut pas vraiment un métier assuré par une femme, ça sera mieux. Est-ce qu'il y a encore des métiers où on peut dire, il vaut mieux que ça reste comme ça ?
Alors, vous vous doutez bien que ma réponse, elle va être négative. Peut-être qu'il y a 20 ans, on n'imaginait pas des femmes qui soient à l'entrée d'un bâtiment à faire la sécurité. Aujourd'hui, ça pose plus de problème à personne, et notamment lorsqu'il faut fouiller les sacs et procéder à des palpations. Dans la police, dans la gendarmerie, c'est de la même manière. Donc ça paraît une évidence, toutes les femmes peuvent faire tous les métiers de la même manière que tous les hommes peuvent faire tous les métiers, c'est bien de le dire aussi dans ce sens-là. Néanmoins, dans la réalité, on classe les métiers par famille et on retrouve les hommes dans 55 familles. Les femmes se retrouvent uniquement dans 13 familles. Et je vous le donne en mille, vous allez deviner, les familles du soin, ce qu'on appelle le care, pour continuer avec un peu d'anglicisme. Pourquoi ? Parce que le soin, c'est quelque chose de facile, d'évident, pas besoin de beaucoup de formation, pense-t-on. C'est naturel, quand on est parent, on s'occupe de ses enfants, quand on est enfant, on peut être amené à s'occuper de ses parents. Et de ce fait, ce sont des métiers qui sont assimilés à quelque chose d'assez simple et quelque chose qui n'est pas technique. Alors que pour conduire une dameuse, comme celle dans laquelle je me suis assise tout à l'heure, avec une technicité certes, on imagine que ce sera plus destiné à un métier masculin. Et cette dichotomie entre ces métiers genrés entraîne une diminution des salaires également, puisque c'est un métier qui est considéré comme facile, l'aide à la personne de manière générale, eh bien on va moins le reconnaître et donc moins le payer. Et on entre là dans un système vicieux qui va extrêmement loin.
Est-ce que ça veut dire, alors que vous parlez la différence de salaire, ça rejoint ce que vous disiez juste avant, dans les réglementations, dans la loi, l'égalité est quasiment obtenue. Par contre, il continue à y avoir des différences qui sont déterminées par certains systèmes, un système qui est en place. Donc c'est ça qui est le plus difficile à faire bouger. Oui. Un système qui est lié aux mentalités aussi, entre hommes et femmes.
C'est un système qui est lié à plein de choses. Déjà, et je n'aime pas jeter la pierre aux femmes, mais il y a une réalité, c'est que les femmes, mais c'est lié à l'éducation, à notre système, quand on parle de patriarcat, c'est exactement ça aussi. La difficulté des femmes à afficher un salaire haut, dès le début. On va pardonner à un jeune étudiant sortant de l'école, homme, d'avoir une ambition de salaire, quelque chose qui passera beaucoup moins facilement chez les femmes. Et les femmes ont beaucoup intégré cette idée-là, que c'était peut-être moins justifié, on ne sait pas pour quelle raison, parce qu'on le sait bien, au niveau scolaire, les compétences sont largement là. Mais il y a quelque chose qui est très intégré dans les esprits, là-dedans, hommes et femmes. Et là, c'est toute la société qui doit bouger pour faire changer ça. Après, les carrières des femmes, on sait aujourd'hui, alors que la loi, une fois encore, interdit la discrimination salariale en raison de plein de raisons, mais notamment du sexe de la personne. Pourtant, on se rend compte que le salaire est inférieur pour les femmes et pour les hommes. Il y a une période de l'année, alors le jour augmente chaque année, mais où on considère que les femmes devraient s'arrêter de travailler parce que c'est à partir de ce jour-là qu'elles ne sont plus rémunérées dans l'absolu au regard de la diminution.
Représentation symbolique.
Exactement. Et c'est
du niveau atteint.
Voilà, et on le fait aussi au niveau de la transition écologique.
Voilà, ressources.
Voilà, le jour où on est arrivé au bout du bout et que normalement, il n'y a plus d'égalité. Pour lutter contre ça, eh bien déjà, c'est dans les recrutements, alors au niveau des CODIR, des CODEC, etc., de tout ce qui est comité de direction dans les entreprises, veiller à ce qu'il y ait une parité. On y arrive tranquillement. Il y a encore un an, je disais qu'il n'y avait pas une seule femme dans les CODIR des entreprises des CAC 40, donc ça commence à venir. Et comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Parce que autour de moi, j'ai toujours des hommes qui me disent « mais moi, je cherche, mais elles ne veulent pas ». Alors, comment faire pour qu'elles veuillent? Déjà, plus bas dans l'échelle hiérarchique, faciliter la promotion. Parfois, faire de la discrimination positive. Alors, ça ne veut pas dire prendre une femme incompétente parce qu'il faut une femme, mais qu'à égalité de traitement et de niveau et de compétences, je pense que parfois, ça fait beaucoup de bien de recruter une femme. Je peux donner un exemple d'école que je connais un tout petit peu, une école d'ingénieurs à Toulouse, où, à égalité de compétences, j'imagine, et au final, c'est aujourd'hui une femme qui vient d'être nommée directrice, et je trouve que c'est très bien. Ça va faire du bien à tout le monde. On a du mal à recruter des femmes ingénieures. Les jeunes filles, scientifiques ou non, ont besoin de se projeter dans des modèles, des femmes qui donnent envie de faire ces métiers-là. Alors, d'avoir des directrices d'écoles d'ingénieurs, c'est très bien. D'avoir des femmes dans des comités de direction de grandes entreprises, c'est très bien. Et puis après, c'est sur l'aménagement de la vie familiale. Tout le monde, père et mère, sont aptes à s'occuper des enfants. Aujourd'hui encore, dans la réalité, ce sont souvent les mères qui le font le plus. Ok, moi je n'empêche pas les femmes de s'occuper de leurs enfants si elles le souhaitent. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ça les empêche d'accéder à des postes à responsabilité parce que les réunions sont tard le soir. Normalement, ça devrait aussi empêcher les papas de rentrer chez eux, de faire des réunions et d'avoir envie de rentrer chez eux. Mais justement, est-ce que l'on peut organiser la charge de travail, organiser les réunions à des moments où tout le monde sera apte à le faire? C'est pas à 18h ou à 19h qu'intellectuellement, homme ou femme, on est le plus clairvoyant, le plus reposé pour faire des grandes réunions où on va prendre des décisions importantes. Donc c'est important, là encore, d'organiser l'entreprise pour que hommes et femmes trouvent leur place. Quand on est sur des métiers techniques, parfois, une équipe masculine, on peut se dire j'embaucherai bien une femme, mais la pauvre, elle va être embêtée, et puis j'ai tel agent, il est un peu lourd, etc., ça va créer des problèmes. Ben oui, mais ça, c'est une protection, c'est de la bienveillance, sans doute, pour la jeune fille qui pourrait être recrutée. Néanmoins, c'est au manager de remettre son équipe masculine de droite, en disant que non, ce genre de propos n'est pas admissible. Il y a des femmes qui peuvent travailler ici, et ainsi, ça assurera à tout le monde un lieu bienveillant.
Alors, faire bouger les choses, faire évoluer les mentalités, c'est très lent. Ça se fait souvent difficilement et pour certains un peu avec violence. Ça passe par l'information, ça passe par la sensibilisation dès le plus jeune âge. Forcément, le rôle des parents est important, mais le rôle aussi de l'école, de tous ceux qui encadrent les enfants et qui les font grandir, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Ce travail de sensibilisation dans les écoles, ça fait partie aussi des attributions de la métro. Il y a des actions qui sont faites.
Alors, il y a des associations qui interviennent dans les écoles et la métropole donne des subventions à ces associations. Je me permets de revenir sur le terme que vous avez employé, que parfois ça se fait avec violence, de faire entrer dans les mentalités. Moi, je ne connais pas de féministes violentes. Les femmes se battent pour leurs droits. La violence, elle n'est pas de ce côté-là. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a 170 femmes qui meurent chaque année sous les coups d'hommes, que ce soit leur mari, leur conjoint, un type rencontré dans un parking, eh bien, la violence, elle est là. Donc le combat des féministes n'est pas violent. C'est un combat acharné.
Une violence psychologique. Hein. Pour certains, c'est difficile de changer leur mentalité.
Bien sûr. Mais les sociétés ont toujours changé. Et le changement que l'on prône, nous, c'est un changement qui va faire du bien à tout le monde. Parce que c'est une société qui est, au contraire, beaucoup plus inclusive, qui accueille tout le monde. Quand on parle de l'aménagement de la ville, je reviendrai sur les écoles, bien sûr. Mais quand on parle de l'aménagement de la ville, qu'on fait des marches sensibles, c'est-à-dire des marches avec des femmes dans un quartier pour regarder où elles se déplacent. Où elles se déplacent, ça veut dire on sait qu'elles évitent les coins sombres, etc. Et ça permet d'aménager un territoire. Eh bien, ce territoire qui sera mieux aménagé, il le sera aussi pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants, pour les familles et pour les hommes eux-mêmes. Donc le travail que l'on fait, ce n'est pas pour amoindrir un quelconque pouvoir des hommes, mais au contraire, partager une société et faire un vivre ensemble qui sera beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et pour en revenir aux écoles, donc il y a des obligations. La loi impose un certain nombre d'heures pour réfléchir et pour enseigner. On parle surtout de la sexualité, mais en réalité, c'est la vie affective et sexuelle qui doit être donnée en cours aux élèves et aux collégiens. Un certain nombre d'heures dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas données. La nouvelle ministre, ça a été une de ses premières déclarations, et je crois fort aux déclarations, surtout dans un gouvernement comme celui-ci. C'est un message fort qui a été donné, donc je compte sur elle, justement, pour travailler, parce qu'on sait que c'est auprès des plus jeunes qu'on peut transmettre ce genre de message.
La sensibilisation, elle se fait aussi auprès des jeunes filles pour qu'elles prennent bien conscience que parfois elles se mettent des barrières toutes seules. Elles considèrent ne pas avoir leur place dans tel ou tel métier. Ça, de plus en plus, il y a un travail aussi pour montrer aux enfants ou aux adolescentes que c'est faux, qu'il ne faut pas qu'elles qu'elles n'écoutent pas forcément les mauvais conseils ou qu'elles-mêmes, il ne faut pas qu'elles se mettent des freins.
Elles ne se donnent pas forcément des barrières. Elles ne se mettent pas forcément des barrières. C'est qu'elles sont empêchées par la société dans laquelle on vit. C'est que quelque part, on leur aura toujours montré qu'il faut, parce qu'elles sont filles, gentilles, etc. Ça va dès la crèche. Lorsque tous les matins, je cible personne, mais à titre d'exemple, la personne qui est à la crèche reçoit la petite fille et la reçoit en s'extasiant sur « Oh, tu es jolie, tu es bien coiffée, le lendemain, oh, tu es bien habillée, etc. » Et pour le petit garçon, « Oh, il est costaud, il est fort, il va faire la bagarre, allez, on y va. » Vous rendez bien compte que quand on voit au niveau neurologique comment tout va très très vite à cet âge-là, le nombre de choses quotidiennement que garçons et filles vont emmagasiner et qui créent ces problèmes liés au genre. C'est que il faut pouvoir dire à la fille qu'elle va aller faire la bagarre et que le garçon, il est super joli aujourd'hui. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui se partage et ce sont des compliments qu'on peut dire dans les deux sens. Et ça, après, arrivé adulte, quand on a expliqué aux filles que les maths, c'est bien, toi, tu as bien réussi en maths cette fois-ci. Oui, mais le garçon, il a réussi aussi. Et lui, on ne va pas lui dire de cette manière-là. On laisse entendre que cette réussite serait quelque chose d'anormal et de pas naturel. Et puis aussi, il y a les différentes réformes qui sont arrivées au niveau du lycée. Où on s'est rendu compte que c'était une véritable catastrophe. Alors pour les sciences de manière générale, et puis aussi pour les filles dans le domaine scientifique, où il y a eu un renoncement par avance, parce qu'on a annoncé que cette spécialisation maths était hyper, hyper dure. Vous avez dit hyper dure. À partir de là, il y a des freins qui se font automatiquement, qui s'expliquent par les éléments que je viens de donner, et qui ont empêché justement toutes ces filles d'arriver sur un bac scientifique. Et donc, par la suite, on sait que ce sont des futurs ingénieurs, des futurs médecins qu'on a perdus.
On vit à une époque où la lutte contre le harcèlement des hommes contre les femmes, les violences, les agressions physiques, et là, parlons du milieu, du travail, cette lutte a connu une avancée avec un peu plus de liberté de parole pour les femmes, les mouvements MeToo, etc. Donc ça permet de faire progresser un petit peu les choses. Est-ce que vous constatez effectivement des effets positifs dans le monde du travail, où pour l'instant ça n'en est pas encore là?
Alors, la loi, encore une fois, c'est la loi qui donne tout ça. Et puis MeToo, les mouvements MeToo, il y a différents qu'il y a eu dans le cinéma, dans la vie de manière générale, à l'hôpital aujourd'hui. C'est évidemment des choses qui font avancer. la loi a prévu que les entreprises, justement, créent, et nous, au sein de la métropole, on travaille beaucoup à ce sujet-là, créent des lieux où les gens peuvent porter la parole, donc un lieu de recueil de parole de personnes qui seraient victimes de discrimination, mais de manière générale, de harcèlement. Et de discrimination de manière générale, parce que porteur de handicap, parce que sur son sexe, son genre. Donc la loi prévoit ces lieux-là. Donc oui, ça permet d'augmenter. On s'aperçoit aussi que le nombre de plaintes et de réclamations à ce sujet-là augmente, mais c'est sans doute parce que la parole s'est libérée. J'ose espérer que ce n'est pas parce que le nombre de faits augmente, mais parce que la parole se libère. Et après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là ? Comment est-ce que les services de ressources humaines sont formés pour justement que ce ne soit pas la personne qui a parlé qui soit sacrifiée en quelque sorte et qu'on arrête de protéger des hommes qui seraient toxiques dans le travail ? Parce qu'un homme harceleur, au travail, il est toxique pour les femmes, mais aussi pour les hommes et pour le fonctionnement de l'entreprise de manière générale, de la même manière à l'école, de la même manière dans la rue. Donc oui, il y a des choses qui avancent, mais on est loin d'avoir atteint une égalité et une justice parfaite sur ce sujet-là aussi.
Il y a un autre aspect aussi qui est apparu relativement récemment dans nos sociétés, c'est les personnes qui ne se revendiquent ni du sexe masculin ni du sexe féminin, donc le transgenre, les personnes non genrées. Alors, quel impact ça peut avoir dans le milieu du travail? Les employeurs, est-ce qu'ils arrivent à gérer cet nouvel aspect de l'identité sexuelle, où ça pose des problèmes?
Alors, il faut savoir que ça, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène dont on parle aujourd'hui. Oui. Mais des gens dont la définition du sexe n'est pas clairement définie à la naissance, ça a toujours existé. Et dans toutes les sociétés, c'est biologique, c'est ainsi. Alors après, on a un besoin fou de faire rentrer les gens dans des cases, et y compris les médecins, quand ils ont un bébé devant eux. Donc parfois, il arrive qu'on attribue un sexe qui ne soit pas forcément celui qui est naturellement celui du bébé qui vient de naître, et que c'est plus tard en grandissant que les choses vont se déclarer. Et aujourd'hui, c'est effectivement un sujet qui pose question, qui fait beaucoup parler. On en parle parce que les gens osent aujourd'hui dire « Moi, je ne me sens pas bien dans mon genre. Je demande qu'on me genre différemment. » La loi aussi, la jurisprudence, la Cour de cassation aussi a revu ses positions sur ce sujet-là. Et les employeurs, ils s'adaptent aussi. Parce que parfois, quand ils ont quelqu'un qui va changer d'état civil, ça peut évidemment poser des difficultés aux collègues, à la gestion du personnel de manière générale. Eh bien, là, moi, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que sur ce sujet-là, comme sur les autres, il faut en parler avec le moins d'a priori possible. On se touche à des sujets extrêmement sensibles. Évidemment, ça remue tout le monde par rapport à ce que l'on a toujours cru penser. Et il faut prendre justement cela avec le plus de sérieux et le plus d'empathie possible. En face de soi, on a un être humain qui peut être en souffrance, qui a fait des choix qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Et c'est aussi le rôle de l'employeur aujourd'hui de faire en sorte que les choses se passent au mieux sur le lieu de travail.
Donc en tout cas, en ce qui concerne la question des métiers genrés, comme on dit, et en tout cas les métiers qui doivent être accessibles à tous et toutes, on peut trouver des informations ici, au Forum des métiers, Grenoble-Alpes Métropole. Donc s'il y a des personnes qui ne viennent pas forcément dans l'idée de trouver un stage, un job ou quoi que ce soit, mais simplement s'informer, sur où est-ce qu'on en est sur ces questions-là, c'est possible aussi au niveau du stand de Grenoble-Alpes Métropole.
Bien sûr, au niveau de notre stand et puis à tous les niveaux. J'ai félicité tout à l'heure le militaire qui était sur le stand du 7e BCA et ils avaient un mannequin femme qui était donc habillé en treillis. Et ben là encore, ça fait partie des politiques volontaristes où quand on montre, ça peut donner aussi envie. Et je trouve que dans les différentes allées, les queues qui se constituent pour regarder soit le cordiste, soit la dameuse ou autre, sont finalement constituées de jeunes gens, garçons et filles, et c'est plutôt agréable à voir.
Je vous laisse peut-être le mot de la fin, si il y avait un message en particulier que vous souhaitiez faire passer aujourd'hui.
Eh bien, pour le salon, bravo à tous les organisateurs, toutes les organisatrices. C'est un très beau salon qui est porteur d'espoir et qui peut faire envie à plein de jeunes. Et puis, sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, je vais m'adresser aux filles de manière plus générale et plus spécifique. Ne vous empêchez rien, tout est possible. Et il y a beaucoup de femmes autour de vous et d'hommes qui vous regardent avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'espoir.
Et venez découvrir des métiers peut-être que vous n'imaginiez pas qui étaient accessibles pour vous ici au Forum des métiers Grenoble-Alpes Métropole. C'est aujourd'hui jusqu'à 21h et demain de 9h à 17h à Grenoble-Alpes Expo. Corinne Lemarié, merci. Bonne
merci
continuation
beaucoup
dans vos activités, votre charge, et à une prochaine fois sur l'antenne de
News FM. À très bientôt, merci, au revoir.
Au revoir. Quant à nous, on s'accorde une petite pause musicale et puis on se donne rendez-vous d'ici 10-15 minutes pour de nouveaux invités autour de la table. Ça sera une nouvelle table ronde animée par mon camarade Greg. On parlera, on va continuer dans le sujet de l'égalité des sexes, et notamment ça sera donc la thématique, la féminisation des métiers du numérique. À tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Les 16 et 17 octobre 2024, c'est le Forum des métiers organisé par Grenoble Alpes Métropole à Alpes Expo Grenoble.